On va parler maintenant de pâtisserie et de choses comme ça qui donnent l'eau à la bouche. Et donc j'ai invité quelqu'un qui est à la fois jeune et talentueuse. Elle s'appelle Justine Guernet. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir ici.
Un grand plaisir de présenter votre aventure. Elle sort du banal, on va dire.
Un peu, effectivement, oui, c'est vrai.
Alors, on peut peut-être expliquer le cadre qui vous a amené à avoir un prix, hein, d'être lauréate d'un concours.
Alors, ça va faire un petit mois que j'ai remporté le titre de meilleure apprentie de France en chocolaterie-confiserie. Donc, c'est un concours qui est national, qui se déroule d'abord dans des sélections régionales, puis dans une finale nationale qui va réunir toute la France au final avec différents apprentis. Et c'est plusieurs mois de travail sur un sujet qu'on a donc à l'avance, sur lequel on va se préparer pour pouvoir le jour J sortir en fait ce qu'on nous demande dans les meilleures conditions possibles avec un travail et une belle présentation.
Donc chocolaterie, confiserie, c'est ce qui vous a intéressé comme projet professionnel. Pourquoi pas la pâtisserie d'une manière plus générale ?
Alors en fait, je suis également pâtissière, hein, je possède un diplôme également en pâtisserie, j'ai même commencé par ça mon apprentissage, d'abord 2 ans d'un CAP pâtisserie et ensuite j'ai fait un CAP chocolaterie qui est une des suites logiques on va dire du CAP pâtisserie, il y en a d'autres, il y a aussi la glacerie, il y a d'autres options après un CAP pâtisserie mais moi j'ai vraiment voulu poursuivre dans la voie du chocolat qui m'intéresse énormément et c'est ça qui m'a menée vers le concours.
Voilà, donc on peut dire que c'est une spécialité.
Absolument, c'est ça.
Et qu'on apprécie.
Ah oui.
Donc, ce métier que vous préparez, il est accompagné, j'allais dire plus qu'accompagné, hein, par des formateurs. Peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots.
Absolument, donc là je suis actuellement en BTM chocolaterie, donc c'est un niveau qui est supérieur au CAP, j'ai passé mon CAP l'année dernière et pour cela en fait c'est de l'alternance que je fais, donc c'est-à-dire que je suis 2 semaines en entreprise et 1 semaine au centre de formation. Donc mon entreprise, c'est l'entreprise qui s'appelle Quentin Bailly, c'est le nom de mon patron qui est lui-même champion du monde de pâtisserie. Donc ça se trouve, le labo Ratoir est à Perrenchy et on a une boutique donc à Perrenchy et une boutique à Lille. Et donc là je suis entourée par toute une équipe qui me forme au quotidien sur toutes les techniques différentes de notre métier. Et il y a également la partie scolaire où je vais donc à l'école à Tourcoing, au centre de formation de Tourcoing, où on va voir toutes les informations plus théoriques de notre métier pour à terme passer le diplôme l'année prochaine.
Voilà, donc être en stage d'apprentissage, on va dire, dans une entreprise où le chef est déjà bien distingué, bien connu, ça aide à remporter le concours ?
Alors effectivement, c'est un gros plus parce qu'il a l'habitude des concours. Hein. C'est quelqu'un qui a fait plus d'une quinzaine de concours dans sa vie, donc il sait comment ça fonctionne. Il a su me guider sur l'entrain qu'il fallait y mettre, sur les différentes techniques qu'il faut apporter, sur ce qu'il faut faire et pas faire. Donc évidemment, c'était aussi quelque chose qui était vraiment un bon point pour moi dans la préparation du concours.
Quelle est la relation, peut-être le rapport entre le coaching donc de votre patron, on va dire, et puis aussi vos envies personnelles, vos idées, votre créativité?
Alors pour le concours, mon patron m'a vraiment laissé libre, dans le sens où c'est moi, par rapport au sujet, qui lui ai présenté mes idées, en lui disant « voilà, j'aimerais faire ça, ça, ça ». J'ai fait des essais, quand moi, ça me plaisait à moi, que j'étais convaincue que le produit était abouti, je lui présentais et à ce moment-là, il me disait s'il y avait des choses à revoir, si ça ne passait pas dans le cadre du concours ou si au contraire, c'était une bonne idée qu'il fallait poursuivre sur cette voie-là.
Est-ce qu'on refait les mêmes recettes ou est-ce qu'on innove toujours ?
Il y a toujours besoin d'innovation, surtout pour les concours, parce que sinon, on reste coincé dans le passé et au bout d'un moment, les créations elles sont datées et ça va moins intéresser les clients et également les personnes, là en l'occurrence les jurys pour le concours. Mais ce qui est important, c'est toujours d'innover, d'être un temps en avance, on va dire. C'est ça qui est important, c'est ce que les clients aussi recherchent de plus en plus aussi de notre temps avec les réseaux sociaux. Les gens sont plus informés de ce qu'ils peuvent avoir et donc ils sont plus exigeants également sur nos produits.
Alors, est-ce qu'il y a des modes dans ces domaines-là ? Est-ce qu'il y a une évolution des goûts ou des besoins ?
Alors, tout à fait. Alors, pour les modes, oui, dans tous les cas, il y en a. Aujourd'hui, comme je disais juste avant, avec les réseaux sociaux, on voit énormément de choses très graphiques. Le visuel de tout ce qui est pâtisserie, chocolaterie est très important. Mais ce qui va faire revenir le client dans une boutique, c'est avant tout le goût. Donc c'est là où il faut également mettre vraiment tout son cœur dans le produit pour avoir vraiment un goût qui soit parfait. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut compter avec les besoins, comme vous disiez, qui évoluent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten, intolérantes au lactose, qui ont des allergies. Il faut aussi penser à avoir une gamme dans cet ordre-là pour pouvoir satisfaire toutes les demandes.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces personnes sont nouvellement, par rapport au gluten, en difficulté ?
C'est récent ? C'est relativement récent qu'on s'y intéresse. À mon avis, ça a toujours un petit peu existé. Il y a certaines enzymes dans nos corps qui ne sont pas forcément faites pour digérer différentes choses, le lactose, le gluten, etc. Mais à l'époque, disons, si on mangeait du pain et qu'on était un petit peu ballonné, on se disait « bon, voilà, c'est comme ça, maintenant ». Vu que c'est connu, à mon avis, il y a plus de gens qui peuvent s'identifier à ce souci-là et qui peuvent voir leur vie s'améliorer par le fait de réduire le gluten, le lactose, même les sucres parfois. Et donc, c'est à mon avis un problème qui est plus récent, mais sur lequel il faut aussi compter.
Est-ce que dans la boulangerie industrielle, on ne rajouterait pas justement des choses qui sont difficile à digérer par la suite? On n'a pas tendance à surajouter du gluten?
Alors, personnellement, moi, je n'ai pas de diplôme en boulangerie, mais je sais effectivement que dans la boulangerie industrielle, les blés qui sont utilisés pour les farines, etc., ce ne sont pas des blés de qualité, parce que forcément, la boulangerie industrielle, c'est fait pour être moins cher. Donc, du coup, les blés sont de moins bonne qualité et ont beaucoup plus de gluten aussi à l'intérieur. Tout ce qui est blé ancien qui va être cultivé dans une agriculture plus raisonnée, le taux de gluten va être bien moins important. Ça sera aussi plus difficile à travailler pour les boulangers. Mais dans tous les cas, il y aura moins de gluten et ce sera plus digérable par les personnes qui ont des intolérances.
Alors, quand on achète un paquet de farine, hein, c'est un kilo par exemple, hein, on voit dessus des numéros qui sont différents d'une farine à l'autre. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'en pâtisserie, vous utilisez un type particulier de farine?
Tout à fait. En fait, il y a énormément de types de farine différents qui existent. Le thé, comme c'est marqué T45, T65, c'est relatif au taux de cendre quand on fait brûler la farine. Alors ça vous dira peut-être rien comme ça, même moi-même, c'est vraiment une donnée qui est relativement scientifique. Mais ce taux-là va déterminer l'utilisation qu'on va pouvoir faire de la farine. Donc c'est-à-dire qu'une farine qui va avoir un T relativement faible va être plus utilisée pour des pâtes à tarte, par exemple. Alors qu'une farine plus élevée, ça va être plus pour les pains. La T65, la farine de tradition française, ça va plus être utilisée pour les baguettes, par exemple. Et plus on monte, plus ensuite, ça va être pour des farines de seigle, par exemple, qui vont être en T110, des pains plus foncés, on va dire.
Si on prend le blé et l'épeautre, est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est la même chose au départ?
Ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout, parce que moi, comme dit, je suis pâtissière, d'accord, donc la boulangerie, je ne m'y connais pas énormément.
Mais, donc, quand on prend des farines, pour vous, c'est farine de blé, toujours?
Oui, en tout cas, dans mon métier, comme je suis chocolatière, j'utilise très peu de farine, hein, c'est juste pour tout ce qui est sablé, donc on va exclusivement utiliser de la T45 ou T55.
On va parler chocolat maintenant, déjà mes yeux ont tendance. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter des maîtres chocolatiers, hein, dans leur labo. Et ils sont très fiers de présenter le produit de base qui sert à la fabrication du chocolat et qu'ils importent de pays très éloignés de France. Où est-ce qu'on trouve les bons chocolats?
Alors les bons chocolats, on va aussi les trouver chez les bons couverturiers. C'est en fait le métier qui va fabriquer le chocolat. Ça s'appelle le couverturier. Ce sont eux qui vont sélectionner les fèves de cacao, hein, qui est le produit de base pour réaliser le chocolat. Les fèves de cacao, on les trouve tout autour de l'équateur, en fait. C'est un climat très spécifique qui est nécessaire pour la croissance des cacaoyers, la récolte des fèves de cacao. Ces fèves de cacao, il y en a de plein de sortes différentes, en fait, qui vont avoir différentes notes, plus ou moins sucrés, les profils. Et ensuite, les couverturiers vont sélectionner ces fèves-là pour faire différents chocolats qui vont être aussi plus ou moins sucrés, avec plus ou moins de cacao dedans. Et pour nous, pour être plus technique aussi dans notre métier, on va avoir différents taux de beurre de cacao qui vont rendre le chocolat plus ou moins liquide en fonction de l'utilisation qu'on va en faire.
Il y a des grands crus en cacao ou en chocolat ?
Tout à fait, il y a des grands crus, en tout cas dans mon entreprise, on a énormément de chocolats différents. Vraiment, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a facilement une cinquantaine en stock de chocolats différents du monde entier. Et là-dedans, il y a effectivement des grands crus qu'on va utiliser notamment pour faire des tablettes grands crus. Donc c'est des chocolats d'exception qui sont vraiment faits pour la dégustation.
Alors souvent on parle de pourcentage par rapport à on va dire l'authenticité, mais peut-être voir en quoi un chocolat qui a moins de pourcentage de cacao par exemple, est-ce qu'il a aussi des qualités différentes, sûrement au niveau des goûts, mais est-ce qu'un chocolat, plus il est concentré, meilleur il est, ou c'est pas forcément évident ?
C'est pas forcément évident effectivement, parce qu'en fait ça va dépendre du goût de chacun. Parce qu'il y a des chocolats qui sont faibles en cacao. Déjà, de toute façon, le lait, par définition, est plus faible en cacao qu'un chocolat noir. Parce qu'on va rajouter dedans de la poudre de lait et aussi plus de sucre. Donc, un chocolat au lait, ça peut aussi être très bon. Pourtant, ça a un taux de cacao qui est inférieur à un chocolat noir. Et un chocolat 100%, donc, c'est-à-dire où il n'y a aucun sucre dedans, où c'est vraiment juste la fève de cacao broyée, au final. Ça existe aussi et ça marche beaucoup en ce moment. Et par contre, voilà, là, c'est vraiment très astringent, assez amer. Il faut aimer. Mais ça marche aussi vraiment bien. Ça se vend bien ces derniers temps. Donc, ça va être très intéressant pour le goût du cacao. Pour les amateurs vraiment de cacao pur et amer, c'est un goût qu'on va retrouver dans ce genre de produit. Mais on peut trouver de très, très bons chocolats qui ont un taux de cacao qui n'est pas forcément très élevé.
Est-ce qu'on peut imaginer des séances de dégustation à l'aveugle, hein, comme pour le vin, par exemple, pour le cacao ?
Alors oui, il y a des gens qui sont capables de déterminer d'où vient tel ou tel cacao juste en le goûtant. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas encore assez d'expérience dans le métier pour faire ça, mais mon ancien patron, moi je suis alsacienne de base, mon ancien patron chez qui je travaillais faisait du bean to bar, c'est-à-dire qu'il créait lui-même son chocolat, donc il n'avait pas à passer par les couverturiers dont je parlais tout à l'heure, il achetait directement les fèves de cacao. Et avec les différentes machines qu'il possédait, il faisait lui-même son chocolat. Donc il pouvait mettre autant de sucre qu'il voulait, autant de poudre de lait pour le chocolat au lait. Et lui aussi, il était capable, en goûtant des chocolats, de savoir de quelle partie du globe la fève provenait.
Donc on a parlé du cacao, on a parlé du lait. On rajoute parfois aussi des fruits ou d'autres choses, des noisettes, enfin voilà.
Tout à fait. Alors, dans le chocolat lui-même, on va aussi rajouter parfois des épices, surtout par exemple pour le chocolat blanc. On va trouver du chocolat blanc à la vanille, on peut trouver du chocolat au lait à la tonka, au café. Il y a plein de différentes options qui sont possibles directement dans la fabrication du chocolat. Et ensuite, nous, dans la transformation du chocolat, pour les tablettes, pour les différents produits qu'on va pouvoir proposer en boutique, on peut ajouter à ce chocolat différents inserts comme des fruits secs, des fruits confits. Il y a plein de possibilités, c'est assez infini.
C'est encore du chocolat, le chocolat blanc ?
Le chocolat blanc, techniquement, c'est pas vraiment du chocolat parce que il n'y a pas de pâte de cacao à l'intérieur. Donc il y a pas, en fait, c'est pas la fève, c'est vraiment juste le beurre de cacao qui vient de la fève mais qui ne fait pas partie du cacao en lui-même, ajouté à ça avec de la poudre de lait et du sucre.
Voilà, donc on a parlé un peu du chocolat, on pourrait y revenir, hein, c'est vous qui voyez. On pourrait peut-être parler maintenant du métier de confiseur ou de la confiserie d'une manière générale. Hein.
C'est effectivement en fait un métier qui est relié au métier de chocolatier. Hein. D'ailleurs, les diplômes qui se font, ça s'appelle chocolatier-confiseur. C'est deux métiers qui vont de pair. Et le chocolatier va donc travailler le chocolat, le confiseur va travailler le sucre. Donc, c'est-à-dire toutes les différentes options qu'on va avoir avec le sucre, parce qu'il y en a énormément. C'est un métier qui est aussi très très vaste. Par exemple, les pâtes de fruits, tout ce qui est sucre dur, hein, les sucettes. On peut avoir énormément d'options avec ce métier-là. Et c'est aussi plein de choses que j'apprends à l'école. Il y a beaucoup de spécialités régionales. Par ici, la bêtise de Cambrai, par exemple, c'est de la confiserie. Et chaque région va avoir sa spécialité de confiserie.
Et avec le sucre, on peut aussi le faire chauffer, lui donner des formes, ce qui peut améliorer les décorations aussi.
Tout à fait. Il y a toute une partie qui s'appelle le sucre d'art. Donc, c'est aussi des concours qui sont organisés là-dedans, où on va porter le sucre à une certaine température, où ensuite on va pouvoir le travailler, l'élargir, l'allonger, le satiner. Donc il y a énormément de possibilités avec le sucre.
Voilà, donc Justine Garnet, on peut peut-être dire à cette époque-ci de votre évolution, qu'est-ce que vous envisagez et quels sont les prochains challenges ?
Alors les prochains challenges pour moi, donc déjà ça va être de passer donc mon diplôme de BTM l'année prochaine. J'espère réaliser vraiment un buffet qui soit à la hauteur de mes attentes. Après là, c'est le thème est révélé 3 semaines avant, donc on a 3 semaines pour préparer l'examen, ce qui est peu par rapport au temps que j'ai eu par exemple pour le concours, mais ce n'est pas non plus la même chose parce que le concours c'est un niveau aussi supérieur, il faut donner beaucoup plus d'investissement. Mais ça sera la prochaine étape, on va dire. Et ensuite, après ça, ce sera fini pour moi, on va dire. Et je vais aussi faire un petit peu d'expérience, certainement à l'étranger. Et par la suite, j'aimerais ouvrir ma propre chocolaterie, certainement en Suisse ou en Italie.
Très bonne idée. Donc, quand on pense ouvrir une chocolaterie, on peut imaginer aussi une chaîne avec une distribution internationale. Est-ce que vous visez ça ?
Ben, c'est possible. Hein. C'est aussi quelque chose qui marche très bien parce qu'il y a le savoir-faire français dans nos métiers qui est très réputé à l'étranger. Nous-mêmes, là où je travaille, on travaille avec des palaces à l'étranger. C'est très réputé, le chocolat français, comme étant vraiment un art à part entière. Et ça peut tout à fait être une option pour une chocolaterie future.
Donc, on parle du chocolat français. On connaît sans doute aussi, hein, disons-le, le chocolat belge et le chocolat suisse. Est-ce que vous voyez des différences importantes entre ces trois natures, enfin, ces trois origines ?
Alors en fait, ça va être aussi les spécialités qui vont être importantes pour chaque pays. Les Suisses vont pas forcément aimer les mêmes chocolats que les Belges, que les Français. C'est vraiment propre à chaque pays et c'est même une question à part entière. Hein. Il y a des livres qui traitent de ces différences-là aussi qui sont intéressants.
Voilà, donc ben, peut-être qu'on peut proposer aux gens de voir comment on fabrique ces chocolats. Peut-être qu'il y a des chaînes vidéo où on peut observer ça. Est-ce que ce qu'on voit, c'est la réalité ou c'est une façon de montrer sans trahir les secrets de fabrication ?
Dans tous les cas, les recettes, etc., ça reste la plupart du temps secret. Mais c'est très courant quand même de montrer les différentes techniques qu'on va pouvoir mettre au point avec le chocolat. C'est quand même un métier de transmission. C'est important en fait que même les personnes qui aiment faire ça chez eux puissent aussi pouvoir le réaliser, même si évidemment c'est relativement limité par rapport au matériel qu'on va pouvoir voir dans un laboratoire professionnel, mais il est tout à fait possible de faire du chocolat chez soi. Dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, on trouve aussi beaucoup de vidéos, même des gens qui passent des concours, où on peut voir les différentes techniques qu'ils ont utilisées, parce que tous les ans, on voit des nouvelles techniques. Quand on voit juste la photo, on se dit « Waouh, mais comment cette personne a pu réaliser cette prouesse ?» Et ensuite, on va pouvoir voir par différentes vidéos comment ça a été fait. Et ensuite, la technique n'appartient plus à la personne qui l'a créée. Mais c'est aussi ça, la beauté du métier, c'est qu'il y a la transmission qui est très importante.
Voilà, un beau métier donc pour vous.
Ah oui, tout à fait. Ben, c'était vraiment un choix de ma part de faire ce métier-là. Avant de faire un CAP pâtisserie, j'ai fait un baccalauréat scientifique franco-allemand en Alsace, qui m'a aussi beaucoup plu, mais je savais déjà que je voulais ensuite partir vers le métier de la pâtisserie, qui me passionnait depuis que j'étais petite. Et je m'épanouis énormément dans ce métier-là. Je me réveille tous les matins en étant heureuse d'aller au travail. Donc pour moi, c'est le principal. Et j'ai toujours de nouvelles idées dans la tête que j'aimerais mettre au point. Donc c'est vraiment un métier pour moi qui est plein de ressources et qui, à mon sens, m'intéressera toute ma vie.
Donc un métier d'avenir pour les meilleurs et pour ceux qui voudraient quand même essayer. Est-ce qu'il y a de la place dans le monde professionnel ?
Tout à fait. De toute façon, tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise. Dans tous les cas, il faut aussi de la main-d'œuvre. Et les passionnés ne sont pas forcément des personnes qui vont vouloir innover. Il y a tout simplement des gens qui aiment refaire, qui aiment produire, qui aiment le toucher, la matière. Et c'est aussi tout à fait important d'avoir des personnes comme ça dans notre métier.
Voilà. Eh bien, on arrive en période de fête, là. Je pense que vos métiers reprennent des couleurs à ce moment-là.
Tout à fait. Les fêtes, ça se prépare chez nous longtemps à l'avance parce que, ben, par exemple, en ce moment, on a le calendrier de l'Avent de chez nous. Tout ça, ça va se décider vraiment en début d'année, hein, l'année de Noël. Vers janvier-février, on va déjà choisir ce qui va composer le prochain calendrier de l'Avent. C'est des produits qui vont être mis au point à l'avance pour être testés, pour être sûr que ça va plaire aux clients. Et ensuite, les fêtes, ça se prépare à l'avance et c'est aussi des gros moments pour nous où on va travailler un peu plus. Mais le principal, c'est qu'ensuite, les clients soient satisfaits de ce qu'ils auront dans leurs assiettes.
Voilà, bien, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de plaisir et puis de partager tout cela.
Merci beaucoup.
Très bonne journée.
À vous aussi.